Voilà, bonjour à tous. On a désormais le privilège d'avoir un dictaphone pour enregistrer. Donc voilà. Et donc c'est le frère Théophile, merci, qui nous les met donc sur le site internet de notre assemblée. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Je nous invite à poursuivre notre parcours du livre des Proverbes. On attaque le chapitre 11, on lira les 9 premiers versets. Proverbe chapitre 30, Proverbe 30, versets 1 à 9. La Bible nous dit ceci. Parole d'Agur, fils de Jakhé, sentence prononcée par cet homme Ithiel pour Ithiel et pour Rukal. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen. Voilà, ces 9 premiers versets du chapitre 30, on peut réafficher le début, nous parlent d'Agur, les paroles d'Agur prononcées pour Étienne. Il commence par dire que lui, franchement, il n'est pas intelligent. Verset 2. Oui, je suis plus stupide que personne, hein. Moi, je n'ai pas l'intelligence d'un homme, je n'ai pas. Verset 4. Mais ensuite, il enchaîne sur ses questions rhétoriques. Et qui est monté aux cieux et qui est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Où est le rapport? Il dit, moi, je n'ai pas d'intelligence. Moi, je suis stupide. Moi, je suis même un idiot. Mais dis-moi, tu sais, toi, qui a fait tout ça? Qui a fait ces œuvres? Qui a créé la terre, les cieux? Qui a créé la diversité des espèces animales, végétales? Qui a donné les limites à la terre? Tu connais son nom? Ou peut-être si tu ne connais pas son nom, est-ce que tu connais le nom de son fils? Parce que son fils certainement sera l'image de son père et pourra nous dire des choses sur son père. C'est qui? Voici la question d'Agur. Agur considère qu'il n'a pas l'intelligence. Agur considère qu'il n'a pas la connaissance et la sagesse. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui a la sagesse parfaite. C'est lui. Qui a recueilli le vent dans ses mains? C'est Dieu. Qui a serré les eaux dans son vêtement? C'est Dieu. Le Très-Haut, le Dieu Saint, le Dieu à part. Qui? Quel est son nom? Tu le connais, tu l'as vu? Il t'a expliqué comment il a fait? Mais moi, Agur, je sais qu'il est loin de la terre et qu'il a son trône dans les cieux. Mais justement, qui est monté aux cieux et qui en est descendu pour nous faire connaître la sagesse de ce Dieu, de ce Créateur? Agur n'a aucune intelligence, d'après lui. Il n'a pas la connaissance, la sagesse. Mais il sait une chose. c'est que Dieu existe. C'est que Dieu a créé toutes choses. Et que toute sagesse parfaite vient de Dieu. Et par rapport à cette sagesse de Dieu, oui, Agur est stupide. Par rapport à la sagesse divine, oui, toi aussi, tu es stupide. Et moi, je suis le plus stupide, donc non. Quelle connaissance on peut avoir pour cerner, pour comprendre, pour vraiment entrer en profondeur de celui qui a fait ces choses? Le sais-tu? Le connais-tu? Mais si Dieu a fait tout ça, et si Dieu est l'être parfait, et si Dieu nous a créés à son image, mais comment est-ce qu'on peut le connaître, puisqu'on est stupide et idiot? Comment on peut connaître ce Dieu? Et c'est pour ça qu'il enchaîne à Agur au verset 5, il dit ceci: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ce Dieu de toute sagesse s'est révélé dans sa création. Agur le sait. Quand il voit les planètes, les espèces, la terre, l'homme, l'être humain, il se dit, Dieu existe et c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Et ce Dieu qui paraît si lointain, qui peut monter là-haut et redescendre, nous dit comment il est. Bonne nouvelle, ce Dieu s'est révélé, non seulement par sa création, mais il s'est révélé par sa parole. Il a parlé. Du haut des cieux, Dieu a parlé. Et cette parole, il a voulu qu'elle soit gravée. Il a écrite. Et cette parole, nous avons. Et celui qui veut chercher en lui un refuge peut le faire. Comment? En utilisant cette parole-là éprouvée comme un bouclier. Je n'ai pas de sagesse, je suis stupide comme Agur. Ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un qui a toute la sagesse et qui est parfait. C'est Dieu le Créateur. Et ce Dieu, eh bien, moi, je ne suis pas monté au ciel, je ne suis pas redescendu pour le connaître. C'est lui qui est venu. Figure-toi qu'il est, il s'est révélé par une parole. Il est venu à nous par sa parole. Cette parole est la source pour Agur et pour toi en ce matin et pour moi, la source de l'intelligence que nous cherchions. La sagesse que nous recherchions, la voici à notre disposition dans la parole. Il dit que cette parole est un bouclier. Un bouclier. C'est quoi un bouclier? Un bouclier, c'est quelque chose qui fait partie de l'armure d'un guerrier, c'est pour se défendre. Un bouclier, eh bien, c'est parce qu'il y a des gens qui t'attaquent. C'est pour ça que tu as besoin d'un bouclier. On t'attaque, on te lance des flèches, je ne sais pas moi, des lances. Et donc, tu as besoin du bouclier pour te protéger. Et il dit, elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui, en Dieu, un refuge. Donc, il a son bouclier et il court se réfugier auprès de Dieu. Mais où est le problème? Qui le poursuit? Il a des ennemis? Il est poursuivi? Oui, il a des ennemis. Oui, il a de l'opposition. Car quiconque, ici-bas, voudra bâtir sa vie sur la parole de Dieu éprouvée, ressentira la même chose qu'Agur. Une opposition. Mais dans la parole de Dieu, il y a un bouclier pour ceux qui cherche en Dieu un refuge. Verset suivant. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. La parole de Dieu est parfaite. Relisez le psaume 19. Elle est pure. Elle est intouchable. Elle est infalsifiable. N'enlève pas un iota, n'ajoute pas un iota, de peur que tu ne sois trouvé menteur. C'est-à-dire, un tout petit retrait ou un tout petit ajout dans cette parole et tu en déformes le sens. C'est quoi le présupposé? C'est que la parole de Dieu est la vérité ultime. Je répète, la parole de Dieu, ce Dieu élevé qui a parlé, qui a inscrit ses paroles, c'est ça notre vérité. Elle est la vérité. Mais si tu la déformes en retirant, en ajoutant, tu es trouvé menteur. Tu en fais un mensonge. Verset suivant, verset 7. Je te demande deux choses. Et là, on est étonné. C'est vrai qu'on n'a pas lu tous les chapitres hein, du livre des Proverbes, parce que là, il nous faudrait vraiment du temps. Mais pour ceux qui connaissent, j'espère que vous le connaissez, vous savez que le livre des Proverbes est un livre de maximes, de dictons. On est ici au chapitre 30, à l'avant-dernier chapitre du livre des Proverbes, dans la seule section du livre des Proverbes où on voit l'auteur en train de prier. C'est une prière. Et c'est la seule prière du livre des Proverbes. Je te demande deux choses. C'est une prière qui s'adresse à ce Dieu qui s'est révélé par sa parole. Deux choses. Ne me les refuse pas avant que je ne meure. Verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. J'ai envie d'ajouter Amen. Puisque c'est une prière. C'est pas fini. Il y a encore le verset 9. Mais restons là pour l'instant sur le verset 8. Agur a dit, lui n'a pas d'intelligence. Mais l'intelligence parfaite est en Dieu. Ce Dieu s'est révélé par sa parole. Et cette parole est un bouclier pour qui veut se réfugier auprès de lui. Maintenant, il considère cette parole-là. Il la médite. Il voit comment est-ce que Dieu veut qu'on vive pour demeurer dans sa présence. Et il considère son cœur à lui. Et il observe autour de lui. Et il prie. Ah Seigneur, garde-moi de deux choses. Deux choses qui vont me poser un gros problème. Oui, ça sera un problème pour moi. Oui, un gros problème. Un très gros problème. La première chose, c'est le mensonge et la fausseté. De quoi il parle? La parole de Dieu est la vérité. Mais c'est comme si j'entends au fond de moi une autre voix. C'est comme si j'entends autour de moi une autre voix qui dit le contraire. Éloigne-moi, Seigneur, du mensonge, de la fausseté, et garde-moi dans ta parole de vérité. Quand on lit l'Ancien Testament, puisque Agur est un homme de l'Ancienne Alliance, on essaie de trouver, mais quels sont les exemples, par exemple, de mensonges, de fausseté, pour lesquels le croyant devrait avoir un bouclier? Il y en a tellement. L'idolâtrie est le premier mensonge. C'est lequel? Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Je suis l'Éternel Yahweh, le Dieu unique. Ah, ça c'est ce que tu dis dans ta parole. Mais tout le monde sait, et tous les peuples le savent, et franchement tout le monde sait autour de nous, que le mieux, c'est d'avoir plusieurs dieux. Ah oui, c'est ça, et comme ça c'est bon ça. Un dieu pour le commerce, un dieu pour l'amour, un dieu pour ceci, un dieu pour la communication, un dieu pour les voyages, un dieu pour la prospérité. Ah, oui, mais toi tu me dis que tu es le Dieu unique, que je dois t'adorer toi seul. Éloigne-moi de la fausseté Éloigne-moi du mensonge. Tu me dis que tu es le Dieu puissant et fidèle. Tu es le Dieu de la victoire. Oui, mais... Moi, je vois autour de moi les peuples qui prospèrent. Eh bien, ce sont les peuples qui sont bien armés, avec des chars, avec des alliances. Mais toi, tu nous demandes de te faire confiance à toi et à toi seul, et que tu es plus fiable que les armes. Éloigne-moi du mensonge. Éloigne-moi de la fausseté. Je suis entouré de gens qui me disent qu'ils parlent de Dieu, les prophètes. Ah oui, ça c'est bien. Lui au moins, il parle de Dieu. Mais tiens, c'est bizarre, il y en a deux. Il y en a un qui m'appelle à la repentance. Et l'autre me dit, fais ce que tu veux, Dieu est avec toi. Éloigne de moi le mensonge. Éloigne de moi la fausseté. Et peut-être aussi tu es assis là, dans cette salle comme moi, et tu réfléchis aux nombreux mensonges qui t'assaillent au quotidien et qui sont contradictoires à ce que Dieu dit dans sa parole de vérité. Peut-être que tu es jeune, tu te gardes pur pour le mariage et tu entends à la télévision que le mieux, c'est de multiplier les expériences pour gagner en maturité. Et comme ça, tu pourras faire le choix du meilleur mari et de la meilleure femme. Mensonge. Dieu dit le contraire. Peut-être que tu es une femme ce matin et tu lis la Bible et elle te dit « Sois soumise à ton mari. » Et tout de suite, tu veux nuancer. Ne commets pas cette erreur. D'accord? C'est vrai qu'il faut la détailler. Soumise comment? Pour autant, c'est la parole de Dieu. Mon travail, c'est oui, mais Seigneur, comment je dois être soumise? Explique-moi mieux. C'est pas je veux pas être soumise. Mensonge. Peut-être que tu lis la Bible et puis on te demande de respecter les autorités. Honorer le roi. Mais toi, tu entends par ailleurs que les autorités ne sont pas dignes d'être respectées. Même un président, on peut le gifler. Tu es libre. Tu penses qu'au temps des apôtres du Nouveau Testament, les rois et les princes étaient plus sympas, plus mignons, plus tendres que ceux qu'on a aujourd'hui? Mais tu sais que tu n'as rien compris. C'était des gens qui passaient leur temps à tuer les chrétiens. Pourtant, Dieu dit, honorez le roi. Préserve-moi du mensonge. Garde-moi dans la vérité. Le chrétien aujourd'hui, surtout à notre époque avec les médias de masse, alors on est bombardé de mensonges. Alors là, mais en longueur de journée, mais c'est un massacre. C'est fou. Avec les médias de masse, franchement, il faut prendre 99,9% comme mensonge. Et je sais que je sous-estime. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques ou dans des logiques de complotistes. Ce que je dis, c'est une chose. La parole de Dieu est la vérité. Et tout ce qui est contraire est mensonge. Ça te choque? Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Je ne veux pas de ça dans ma vie parce que je sais où est la vérité. Elle est en Dieu et en Dieu seul. Et c'est pour ça aussi que la parole du coup de Dieu est un bouclier. Tu comprends maintenant? Ai-je besoin de l'expliquer? Parce que c'est ça qui va te protéger. Ah, tu me dis ça. Pap, je le contredis parce que il est écrit ceci. Pap, la flèche enflammée de l'ennemi se brisant sur le bouclier de la foi. Vous connaissez Éphésiens chapitre 6. Je te demande deux choses. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Et puis Agur rajoute ceci. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Et il explique pourquoi, verset 9. Oui, parce que de peur que dans l'abondance, si j'ai la richesse, eh bien, me connaissant, ça, je risque de t'oublier. Ah oui. Je vais dire, l'Éternel, c'est qui déjà? L'Éternel, bon, moi. Ou alors dans la pauvreté, me connaissant, ah, je vais céder aux tentations de magouiller, de voler, de trafiquer, et ainsi de porter atteinte au nom de Dieu. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Donne-moi le pain nécessaire. Waouh! Ah, bon. Moi, j'ai du mal à faire cette prière. Quand je préparais cette prédication, j'ai dit à ma femme, je me demande si je vais prêcher ça. Oui, je dis là, ouh là là, c'est du lourd. Heureusement, ce n'est pas ma parole. Je suis comme vous face à la parole de Dieu. Une telle prière demande un niveau de spiritualité énorme pour pouvoir faire cette prière. Et je suis surpris qu'il se qualifie de stupide. Parce que moi, je n'arrive pas à avoir ce niveau de sagesse qu'il a. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi? Parce que je désire tant que toi seul tu sois mon refuge. Toi seul et toi seul. Et si j'ai la richesse va devenir mon refuge. Et si je n'ai rien, je vais tomber dans un autre problème. Je vais mettre ta parole de côté et chercher à nourrir mon ventre. Mon ventre va dépasser la fidélité, l'amour que j'ai pour Dieu. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Ça alors. Agur se demandait, mais ce Dieu très haut, ce Dieu saint, si quelqu'un pouvait monter et descendre pour vraiment nous le révéler, nous le faire connaître. C'est vrai qu'il y a sa parole, mais si on pouvait encore plus nous approcher de ce Dieu-là, ce serait encore mieux. La prière d'Agur a été exaucée il y a 2000 ans. Christ est venu. Le Fils de Dieu, Dieu fait homme, est venu sur cette terre. Il est venu pour mourir à la croix de Golgotha, donner sa vie pour ton salut, pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ce qui te séparait de ce Dieu très haut soit brisé. Et pour que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la promesse que Dieu est ton refuge pour l'éternité. C'était bien ce qu'il voulait, Agur. Que Dieu soit son refuge. Et par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous l'avons, ce refuge. Je monte, je vous prépare une place. Et je reviendrai vous chercher, nous dit Jésus. Celui qui met sa foi dans ce Jésus qui est venu et qui est remonté au ciel a la vie éternelle. Le problème de la vie éternelle, c'est vrai que la vie éternelle a l'air fade. Oui, la vie éternelle ne brille pas, ça brille pas, c'est comme l'or. Oui. C'est ça le problème. La vie éternelle, oui, mais moi j'ai des problèmes ici pour le moment. J'ai mon quotidien, j'ai mes factures à payer, j'ai ma famille à nourrir. Tu me parles de la vie éternelle. La vie éternelle. Mais il faut se poser et méditer la parole de Dieu. Et tu comprendras dans la parole de Dieu combien la vie éternelle est 1 000 fois, 1 milliard de fois plus précieuse que tout ce dont tu peux rêver ici-bas, la vie éternelle. Jésus, dans l'évangile des Jean, définit la vie éternelle d'une manière qui nous surprend un peu. Il dit la vie éternelle, ben, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. Point. Waouh! Dans la définition. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus. Et c'est là où tu dois réfléchir. C'est vrai que l'évangile est fait pour réfléchir. Quand tu mets ta foi en Jésus, ce n'est pas je connaîtrai, mais je connais Dieu et Dieu me connaît. Cette relation avec Dieu-là, que tu as déjà dès ici-bas, et que des fois tu ne sens pas trop parce que tu as tellement de soucis, c'est ça la vie éternelle. Et ça ne s'arrêtera jamais. Au contraire, ça va s'améliorer. Ah, d'éternité en éternité, parce qu'un jour, pour le moment, c'est par la foi que tu vis cette vie éternelle. Mais le jour viendra où tu pourras pratiquement toucher ce Jésus, comme a fait Thomas, il a touché, et que tu auras la présence de Dieu à tes côtés. Il faut lire la fin du livre de l'Apocalypse, quand il est dit qu'il n'y avait pas besoin de soleil, de lumière, ni de temple, tout ça ne sert à rien parce que la gloire de Dieu mais remplit tout, déborde de tout. Et cette vie éternelle t'est disponible aujourd'hui en Jésus-Christ. Mais ce Jésus nous a mis en garde. Matthieu chapitre 6, versets 24 à 25. Ces mots sur la montagne. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. J'ai pas mis le verset 24? Pardon, excuse-moi. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On peut afficher ensuite le verset 1 Timothée chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, loin de la foi, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen. Ce Jésus qui nous donne la vie éternelle, ce Jésus qui nous demande de faire du royaume de Dieu notre trésor, nous dit fais attention. Fais gaffe. Moi, je suis ton Seigneur. Tu es appelé à me servir, à m'aimer, à t'attacher à moi. Mais il y a autre chose aussi qui veut gagner ton cœur. Les richesses du monde, mammon, l'argent. Souvent, la Bible, c'est que nul ne peut servir deux maîtres. Et donc, on prend pas assez, ça parle pas assez. En fait, le mot qui est traduit par maître, c'est le même mot qui est traduit par Seigneur. Et là, ça te parle plus. Nul ne peut avoir deux seigneurs. Oh là là. C'est impossible. Des fois, on veut faire l'équilibre. Moi, je peux bien servir deux seigneurs. Un seigneur pour les choses terrestres et l'autre pour les choses spirituelles. Jésus te dit, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu vas t'attacher à l'un et renier l'autre. Mettons-nous d'accord. Parce que, vous savez, c'est des prédications qui peuvent être très culpabilisantes. On ne parle pas de l'argent là. On ne parle pas de la richesse en tant que telle. Hein? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce qu'il y a des gens que Dieu a bénis en les rendant riches. Tu veux des exemples? Ah, il y en a plein dans la Bible. Abraham, Isaac, Job. D'accord? Salomon. De quoi on parle? De l'amour de l'argent. De l'amour des richesses. C'est de ça qu'il s'agit. Pour aimer l'argent et les richesses, on n'est pas obligé d'en avoir. Même quelqu'un qui est pauvre peut aimer l'argent plus que quelqu'un qui est riche. Vous me suivez? L'amour, l'attachement, l'énergie, ta pensée, ton âme, toute ta force que tu mets pour les richesses et l'argent, ça ne sera jamais compatible avec l'amour de Dieu. Jamais. Ne cherche même pas à trouver un équilibre. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est redouter l'amour de l'argent si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu. Voilà ce que tu es appelé à faire plutôt que de chercher un équilibre. L'amour de l'argent, l'amour des richesses. Oh là là. L'argent veut nous dominer. À tel point que quand tu aimes l'argent et les richesses, tu fais de Dieu un esclave de l'argent. Quand tu t'attaches à l'argent, et comme Jésus dit, quand il devient ton maître, quand il veut que tu le sers, tu fais de Dieu un serviteur des passions que crée en toi l'amour des richesses. Le meilleur exemple qu'on a, j'ai pas voulu l'afficher, vous pouvez le lire, c'est dans l'épître de Jacques, où il dit, vous priez, mais vous ne serez jamais exaucé. Vous savez pourquoi? Parce que vous priez mal. Mais oui, c'est même pas la peine, tu fais blablabla. Dieu, il a bouché ses oreilles. Tu peux toujours prier. Pourquoi? Parce que ta prière là, tu ne pries que pour tes passions charnelles. Tu pries la prière que t'inspire ton Dieu argent. Et tu pries que Dieu se mette au service de ton amour de l'argent. Jamais. Nul ne peut servir de maître. Cherche même pas. Ça n'existe pas. Et quand on voit dans la Bible, on en parlait ce matin dans la voiture, les exemples de personnes qui se sont égarées loin de la foi. Oh là là. Quand Paul parle de Démas, un de ses compagnons qui avait toujours été fidèle, en 2 Timothée, il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du monde. Quand on pense au serviteur d'Élie, Géasi, il a vécu et vu. D'Élisée ou Élie? Élisée. M'a mis le doute. Je crois bien que c'est Élisée, hein? Je parle en présence du pasteur qui n'hésitera pas de me mettre moins un. Si je...
Moins je ne serai pas tout.
Bon, c'est vrai, c'est vrai. Comme Agur.
Comme Agur.
Géasi, qui a vu des choses extraordinaires pourtant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fini lépreux à cause de quoi? À cause des cadeaux de Naaman, le lépreux. On passe à Ananias et Saphira, qui étaient libres pourtant, tu donnes ce que tu veux, mais qui ont préféré mentir pour Karachia, moi je veux pas, je veux pas. Qui ont fini dans le tombeau aussi. Il me semble que l'exemple suprême reste Judas. Vous savez, quand on pense à Judas, comme on a en tête la fin de Judas, on ne se rend pas compte que Judas a fait partie des 12. Et à ce titre-là, Judas, comme les autres, a fait des miracles. À coup sûr, il a aussi chassé des démons, fait des... Parce que, je me dis, mais s'il ne l'avait pas fait, les autres allaient savoir que, tiens, il y a un problème avec toi. Alors qu'il était là comme les autres, donc il a certainement fait les choses des autres. Mais à un moment donné... Il a soupesé Jésus, 30 pièces, Jésus, 30 pièces, Jésus, 30 pièces. 30 pièces. Et la Bible de nous dire que Judas tenait la bourse et piochait dedans. Judas était violeur. Pas violeur, voleur, pardon. Voleur. L'amour de l'argent. C'est pas l'argent en tant que tel. Mais l'amour des richesses, l'amour de l'argent. Il faut que nous en soyons préservés dans la grâce de Dieu. Ce qu'on veut, c'est que Dieu soit notre seul maître et notre seul Seigneur. Et si nous nous attachons véritablement à ce Seigneur, il nous a dit ceci. Hébreux chapitre 13. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Si nous nous attachons à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu, tu peux revenir au verset 5 s'il te plaît, verset précédent. Si nous faisons confiance à ses promesses, à ses promesses, si nous faisons confiance à sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et si nous le disons à nous-mêmes, parle à ton âme, parle à ton âme, Dieu est fidèle, il ne m'abandonnera pas. Il nous apprendra une chose.
Voici le maître de la prédication d'aujourd'hui.
Tu peux afficher le verset d'après, s'il te plaît. Non, pardon, excuse-moi, le Philippiens 4 que je t'ai donné ce matin. Désolé. Paul dit ceci, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et enfin, le verset 13, je puis tout cela par celui qui me fortifie. Si on met notre foi en Dieu, si on lui donne notre cœur, si notre amour est pour lui, alors il nous apprendra quelque chose par rapport à l'argent et aux richesses de ce monde. Le contentement. Le contentement. Et là, je me dis, waouh, Seigneur, je comprends pourquoi il y a une prière dans le livre des Proverbes. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, aujourd'hui, au stade de ma vie, c'est difficile. J'aurais aimé pouvoir dire comme Paul, j'ai appris à vivre dans l'abondance et la pauvreté. Je peux le dire. Je peux le dire. Mais pour le moment là, non, je ne le vis pas encore. Que faire? Je vais continuer à me confier dans les promesses de mon Dieu et le prier de m'apprendre. Paul dit, j'ai appris. Apprends-moi encore. Apprends-moi encore. Il y a un espoir pour moi. Je peux apprendre. Apprendre. Apprendre le contentement à me satisfaire dans l'abondance ou même dans la pauvreté. C'est le mot de la prédication d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des Proverbes pour nous apprendre à marcher avec sagesse dans un monde corrompu et de mensonges. La chose d'aujourd'hui pour laquelle je prie Dieu pour toi et pour moi, c'est le contentement par rapport aux richesses du monde. Ne sous-estime même pas une seule seconde le sujet dont nous sommes en train de parler. Parce que Jésus le prend avec un grand sérieux. Nul ne peut servir de maître. Non. Jésus n'a pas dit ça de l'impudicité, de l'adultère. Il y avait plein d'autres péchés. Mais l'amour des richesses du monde. Ah! Fais gaffe. Fais bien attention. Je te demande deux choses. Éloigne de moi la fausseté de ce monde et donne-moi le contentement. Vous voyez comment j'ai un peu dévié de la prière d'Agur? Ça, c'est la révélation. Agur, il a fait une prière qui est bien. Je préfère me baser sur la vie de Paul, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a encore un autre niveau de la révélation. C'est pas tant ne me donne ni richesse, ni pauvreté, c'est un premier niveau. Apprends-moi à me contenter de ce que tu voudras bien me donner. Richesse quand tu veux, pauvreté quand tu veux. Je n'en sais rien de ça, je suis stupide comme Agur. Mais ma prière, c'est que je m'en satisfasse et que je continue de te considérer, toi, seul, mon Dieu, comme ma sécurité et mon refuge. C'est là qu'on a besoin de l'Esprit du Seigneur. Jacques dit que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. J'ai fini ma prédication, je vais prier. Seigneur mon Dieu, sois béni. Il est facile de s'éteigner à la chair et de parler de ta part. Mais donne-moi de vivre, donne-nous de vivre. Et Seigneur, dans ce domaine des mensonges de ce monde, ferme notre cœur, ferme nos oreilles face aux mensonges de ce monde. Et dans ce qui est de l'attachement aux richesses de ce monde, ô Seigneur mon Dieu, produis en nous le contentement. J'aimerais tant pouvoir me satisfaire dans toutes sortes de conditions, car tu es mon bien le plus précieux. Agis ainsi en nous par ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.